Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, on se demande ce qu'est le neuromarketing, parfois assimilé à une technique de manipulation des esprits. Le neuromarketing se donne pour ambition de mesurer l'activité du cerveau des consommateurs dans le but de révéler les mécanismes expliquant ses choix, mais aussi d'influencer ses décisions d'achat. Nous verrons si ces techniques permettent vraiment de comprendre les processus cérébraux à l'œuvre dans le désir de consommer, s'il est vraiment possible de pénétrer dans le crâne des consommateurs pour les pousser à acheter une canette de soda ou un paquet de couche-culottes, s'il existe vraiment un bouton d'achat qui serait niché dans les tréfonds de notre cerveau. Nous nous demanderons également si le neuromarketing respecte l'éthique. Bref, quels sont ses vices et ses vertus? Nous attendons toutes vos questions et témoignages par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Colline et Josué vous attendent au 01 45 24 7000 et puis en fin d'émission, vous retrouverez la chronique de notre Scheherazade du numérique, Julia Foyce, Il était une fois dans le web.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Savez-vous que l'odeur du fast-food est conçue pour vous procurer un maximum d'émotions? Les images du site de voyage, elles, sont calibrées pour déclencher vos envies. Le slogan de la banque est spécialement façonné pour jouer sur vos peurs. Et votre crème, elle est étudiée pour allumer la zone du désir dans votre cerveau. Vous ne vous êtes rendu compte de rien. C'est normal. Tout ça est désormais calculé à l'aide des dernières technologies issues des neurosciences. Comme l'IRM. Cette nouvelle technique de vente a un objectif: contrôler votre cerveau. Son nom, le neuromarketing.
Extrait de l'émission Cache Investigation diffusée sur France 2 en 2015. Avec nous pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est le neuromarketing, Michel Desmurgés, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences cognitives, directeur de recherche à l'INSERM et au CNRS. Et en 2011, vous aviez publié un ouvrage très remarqué, TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision. Bonjour Anne-Marie Gauthier.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la société Dataka Lab, une société de conseil spécialisée en neuromarketing. Bonjour Bernard Roulet.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bretagne, spécialiste en neurosciences du consommateur. Vous travaillez notamment sur les relations entre le cerveau et les odeurs. Anne-Marie Gauthier, c'est quoi d'abord le marketing?
Alors le marketing, c'est d'abord comprendre le consommateur. C'est très important de partir du consommateur pour après développer ses produits et ses services. Et puis après, surtout, adapter les différents points de contact avec ce consommateur pour le toucher, pour lui expliquer nos produits. Et derrière, évidemment, de vendre. Le marketing a pour but de vendre.
Michel Desmurgés, les neurosciences, c'est quoi ?
Les neurosciences, c'est tout ce qui va étudier le cerveau, depuis le niveau le plus moléculaire jusqu'au niveau le plus intégré du comportement. Voilà, c'est comprendre comment s'organise le cerveau, comment il se développe et comment il réagit à son environnement.
Alors, quand on assemble les termes neurosciences et marketing, ça donne le neuromarketing. Alors, c'est quoi le neuromarketing pour quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler, Michel Desmurgés?
Ah, pour ce qui me concerne, alors c'est une forme de publicité, mais c'est une publicité qui va pas se contenter de vous présenter un produit ou de vous vanter les qualités d'un produit. C'est une forme de publicité qui va jouer sur l'ensemble des failles de notre système cérébral pour faciliter la vente et la consommation ou l'achat de ce produit et sa consommation. Je dirais qu'en gros, le neuromarketing, c'est frapper le consommateur en dessous de la ceinture, en tout cas en dessous du radar de sa conscience, pour pouvoir obtenir de façon un peu implicite des comportements qu'on n'aurait pas obtenus, disons, d'une façon un peu plus loyale. Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, c'est celui qui me plaît.
Anne-Marie Gauthier vous regarde avec beaucoup de calme.
Oui, tout à fait, parce que le neuromarketing, c'est simplement mieux comprendre le consommateur. L'obsession, vous avez compris, du marketing, c'est de comprendre le consommateur, ce qui le motive et ce qui le touche. Donc, le neuromarketing permet... Alors, nous, on n'utilise pas du tout... les IRM ou les électroencéphalogrammes, nous, on s'attache à mieux comprendre les émotions parce que le marketing, c'est la publicité, mais c'est pas que la publicité, c'est les magasins et c'est comment mieux toucher le consommateur et mieux le comprendre.
Le neuromarketing, ça permet de savoir pourquoi je choisis ce paquet de biscuits au chocolat ou pourquoi je suis séduit par cette publicité pour brosse à dents, c'est ça?
Non, le neuromarketing, c'est
pas ça?
Non, c'est de mieux comprendre les émotions. C'est pas de faire tout le trajet dans le cerveau. C'est pas ça qui est important. Il n'existe pas de bouton acheté dans le cerveau. Là, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Si ça existait, ça ferait longtemps que tout le monde l'utiliserait.
Mais Michel Demurger, si je comprends bien, le neuromarketing, c'est la grande promesse. La grande promesse du neuromarketing, c'est d'observer les processus cérébraux des sujets volontaires pour déterminer leur attirance pour un produit et leur intention de l'acheter.
Alors, l'étude de ces processus cérébraux se fait en dehors du neuromarketing. C'est les sciences fondamentales et les sciences dures qui nous renseignent sur comment marche le cerveau. Le neuromarketing, lui, va utiliser ses savoirs. Son but, c'est pas de comprendre. On nous dit, c'est pour comprendre les émotions. Le but du neuromarketing, c'est pas de comprendre, c'est de vendre. Donc, une fois qu'il a compris comment marchaient ses émotions, comment marchaient les comportements d'achat, il n'y a pas de bouton, mais il y a des facilitateurs. Donc, une fois que le neuromarketing a compris comment tout ça marchait, il va en tirer profit, et j'ai envie de dire, au détriment du consommateur. Alors, on pourra me dire que c'est pour le bien du consommateur qu'on va lui faire acheter telle ou telle chose qu'il n'aurait pas forcément acheté. Mais en tout cas, quand on a compris ses émotions, on sait les utiliser et on sait retourner un certain nombre de failles et d'émotions, en tout cas de fonctionnement émotionnel du cerveau, pour favoriser le comportement d'achat.
Bernard Roulet, peut-on dire de façon un peu provocatrice que le neuromarketing cherche à dominer la conscience du consommateur, que le neuromarketing est une arme fatale, une arme de manipulation massive?
Alors, la conscience serait peut-être un mot un peu trop fort, puisqu'on parlait d'émotions, et donc il y a différents niveaux dans les cognitions du consommateur. Je voulais juste intervenir sur ce qui venait d'être dit précédemment, en précisant, moi je me positionne plutôt comme spécialiste de neurosciences du consommateur, et si les enseignants-chercheurs européens et américains ont forgé ce terme de neurosciences du consommateur, c'est précisément pour se démarquer du neuromarketing qui est totalement dans la sphère commerciale, mercantile et du tertiaire, hein, de la vente de conseils auprès d'entreprises, et la recherche, si je puis dire, désintéressée, sans but lucratif, la recherche universitaire qui vise effectivement à comprendre ce qui se passe dans la tête d'un consommateur. De même qu'on peut s'intéresser aux phénomènes moraux pour des chercheurs en neuroloi, par exemple. Nous, en neurosciences du consommateur, on s'intéresse qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un consommateur, aussi bien du point de vue émotionnel que du point de vue cognitif, traitement de l'information, qu'est-ce qui se passe par rapport à des stimuli commerciaux ou économiques. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre précisément, hein, puisque j'ai entendu dire il y a un instant que le neuromarketing ne visait qu'à agir et manipuler, la neurosciences du consommateur cherche plutôt à comprendre comment le cerveau fonctionne. Alors, pour répondre plus directement à votre question, il y a différents niveaux. Déjà, est-il utile ou pas d'influencer le consommateur? Si on ne souhaite aucune influence sur le consommateur, il faudrait que nous passions un système de distribution automatique. Nous n'aurions que des distributeurs automatiques, il n'y aurait aucune interaction et aucun risque d'influence et de manipulation. Vous comprenez bien que dès lors que un commerçant ou une commerçante vous sourit, vous met la main sur l'épaule, c'est une forme de manipulation qui commence déjà à ce niveau-là. Donc il faut savoir à peu près à quel niveau commence la manipulation. Et un autre élément aussi qui est très important, c'est également de se dire, est-ce que le consommateur lui-même est conscient de cela? Le consommateur n'est pas tout à fait stupide, il sait ce qu'il y a à prendre et à laisser dans les publicités, il sait qu'une lumière agréable dans un magasin, une musique agréable, des gens sympathiques, une odeur agréable, on sait bien que c'est pour rendre le consommateur de bonne humeur et l'inciter à rester le plus longtemps possible dans un magasin.
Bernard Roulet, c'est du neuromarketing quand par exemple un boulanger diffuse de bonnes odeurs de pain au chocolat dans le système d'aération de sa boutique.
À l'instar de Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, notre boulanger fait du neuromarketing sans le savoir. Tout à fait.
Anne-Marie Gauthier.
Oui, le marketing ou le neuromarketing, et c'est vrai que nous, c'est mieux comprendre le consommateur, mais le consommateur est en effet touché par ses émotions. C'est comme ça qu'il appréhende son monde à travers ses cinq sens. Donc depuis toujours, la publicité ou la publicité a existé. Ça a même existé au moment au temps des Romains, il y avait déjà de la réclame. Donc la publicité et le marketing est la forme évoluée de la réclame. Donc on n'est plus à répéter les noms et les logos et les produits et dire « achetez mon produit ». Heureusement que maintenant, le marketing marketing apporte un vrai dialogue avec ses consommateurs, essaye de les comprendre, essaye d'améliorer ses produits. Donc il n'y a pas que du mauvais dans le marketing. Il y a une façon de travailler ses points de différence et de créer cette préférence pour ce produit. Et justement, dans un magasin, de vous aider au choix, parce que vous allez avoir plus d'atomes crochus avec tel produit, parce que vous respectez ses valeurs, vous respectez son projet de société, vous respectez ce que ce produit propose.
Michel Desmurgés, sur le neuromarketing comme arme de manipulation massive, je vous ai lu et vous dites que le neuromarketing, c'est aller chercher les failles les plus intimes de notre cerveau pour asservir à notre insu nos comportements, nos désirs, nos peurs, nos pulsions, nos représentations, nos décisions. Et vous parlez même de viol. Dans une interview, j'ai lu que vous parliez de viol.
Oui,
vous
faisiez
une allusion entre le viol et le neuromarketing.
J'ai précisé que viol, au terme de rentrer dans un système qui n'a pas envie qu'on rentre dedans, et en termes de violer un système au sens premier, pas au sens physique du terme. Je crois qu'il y a une différence qualitative entre faire de la publicité, sourire aux consommateurs, et puis être sympa et mettre son produit en valeur, et étudier la réaction d'un cerveau à ce produit pour adapter, non pas toujours le produit, mais adapter la façon dont on va présenter le produit. Vous prenez l'odeur de pain. Un vrai boulanger, il n'a pas besoin de mettre une odeur artificielle. Moi, quand je passe dans un grand magasin qui a des fraises qui sont absolument insipides, absolument ignobles et que personne ne mangerait parce qu'elles sont gorgées d'eau et de pesticides, et qu'on vous met une superbe odeur de fraises, oui, ça développe, ça produit un comportement d'achat. Et j'ai l'impression que je me suis fait escroquer quelque part. Il y a là une malhonnêteté à me faire acheter des fraises sur la base d'informations qui sont des informations tronquées. Et on va étudier ça dans le laboratoire.
Ça, c'est pas le vrai marketing de mettre une fausse odeur et tout ça. C'est pas du tout l'ambition aujourd'hui des annonceurs et des entreprises.
Alors prenons cette grande marque de vêtements qui a compris, parce que les neurosciences le savent, ils l'ont étudié depuis longtemps. Et encore, effectivement, M. Roulet faisait une distinction avec le domaine universitaire. On peut essayer de comprendre ça, c'est légitime d'essayer de comprendre ce qui se passe. Maintenant, quand vous avez cette marque qui vous fait des affiches, et je vais taire son nom parce qu'elle ne mérite pas de publicité à mon sens, qui fait des affiches qui vont vraiment vous stresser, où vous avez tout un tas d'images difficilement soutenables, et que vous allez enregistrer la façon dont l'affiche va être scannée pour mettre juste au bon endroit, pour pas qu'il y ait trop d'interférences, vous allez mettre juste en bon endroit, après avoir stressé le cerveau, le nom de la marque, parce que vous savez, quand vous faites peur au cerveau, que quand vous le stressez, vous allez favoriser la mémorisation, et que vous allez, à l'insu du consommateur, faire rentrer le nom de la marque dans le cerveau et dans les banques de mémoire, et que quand le gars va se pointer dans un magasin, il aura déjà une forme de familiarité avec cette marque, et il va plutôt choisir cette marque sans trop savoir pourquoi. Je voulais parler des odeurs, il a fait, dans son laboratoire, ils ont fait de très belles études. On peut mettre des odeurs agréables, il y a des odeurs de cuisine. Maintenant, l'une des études qu'ils ont fait, c'est de mettre des odeurs de lavande versus de citron, et quand vous mettez des odeurs de lavande parfaitement artificiel, vous faites en sorte, et il en parlera mieux que moi, mais vous faites en sorte que le consommateur va rester plus longtemps, le consommateur va dépenser plus d'argent, je crois que c'est 30% de plus d'argent dans ce restaurant-là. Est-ce que c'est très honnête de faire quelque chose qui n'est pas dans le produit pour faire ça? Est-ce que c'est très honnête de me mettre ces odeurs de fraises? Est-ce que c'est très honnête de me stresser pour que ça rentre dans mes banques mésiques? J'ai pas l'impression.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur le neuromarketing au 01 45 24 7000. Grand Bien Vous Fasse est préparé par Laure Grand-Besançon et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Jérôme Boulet. 01 45 24 7000.
Ali Rebi sur France Inter.
Pousse la street, la tête dans le wind. T'as fait du self-control, ton way of living, pour rassurer toujours le petit nanoeil qui cligne. T'es curling, t'es curling. T'es pas baba, t'es pas bobo, mais t'es pas contre un petit bibi. Toujours brut de pomme, mais tu sais être smoothie. Tu bouscules à peine l'air, mais t'irradies et tandis. T'es curling, t'es curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balayent la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balisent. Toi, tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling. Tu doubles fil au Ritz. Descends, grand seigneur, balance nonchalamment les clés au chasseur. Et lui, tapote la joue avec un petit ton farceur. T'es curling, t'es curling. Ça pince-fesse, ça gratine, mais toi tu coulisses. La vie est une faillite que tu croques à pleine tif. Petit pas de danse quand tu traverses la piste. T'es curling, t'es curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elle glisse nue sur la banquise.
Erwan interprété curling, le sport préféré de Julia Foyce.
Oui, c'est le mien.
Et à 10h22, on se demande ce qu'est exactement le neuromarketing, une technique de manipulation qui orienterait nos choix de consommation, ou bien un outil de connaissance des consommateurs pour mieux guider ses choix. Avec nous, Michel Desmurgés, chercheur en sciences cognitives, Anne-Marie Gauthier, président d'une société de conseil en neuromarketing, et avec nous également au téléphone, Bernard Roulet, maître de conférence en neurosciences du consommateur. Alors, pour bien comprendre l'utilisation du neuromarketing par les entreprises, il faut peut-être rappeler les limites du marketing. Le problème, Anne-Marie Gauthier, avec les études marketing, c'est que les gens ont la fâcheuse tendance à mentir et qu'ils ont parfois du mal à verbaliser précisément leurs émotions quand ils évoquent un produit.
Absolument, on voit bien la limite du déclaratif, ne serait-ce que récemment avec les élections américaines, le Brexit. Donc c'est vrai que face à un questionnaire, on va dire, on va essayer de plaire à la personne qui nous pose ces questions. Donc c'est pour ça que nous, on s'intéresse à mesurer les émotions, parce que là, on permet, c'est toute la limite des émotions, parce qu'on a toujours du mal à exprimer ces émotions, ou même la puissance de ces émotions. Et donc nos outils, que ça soit le bracelet connecté ou le facial coding, permet...
C'est quoi ça le...
Le bracelet connecté ou le facial coding, ouais. Ça permet de voir les mouvements du visage et de définir si c'est de la joie, de la peur, etc. Mais ce qu'on fait quand on fait ces mesures-là, après, on confronte le consommateur avec ça, justement sa courbe émotionnelle, pour lui exposer, et ce qui lui permet de mieux comprendre, ah oui, c'est vrai que j'ai réagi. Parce que imagine un spectacle qui dure 2 heures. On a du mal, le cerveau ne peut pas enregistrer tous les pics d'émotion qu'il a eu sur 2 heures de spectacle. Et donc, ça permet de bien comprendre le moment où on a pu réagir par rapport au spectacle, comprendre les temps forts, et à ce moment-là, de l'exposer au client, au consommateur, lui dire, bon ben voilà, vous avez réagi comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Le cerveau ne peut pas tout enregistrer, donc ça permet de dire au consommateur, et à ce moment-là, il dit, ah oui, c'est vrai, j'ai senti ça. Donc c'est simplement une technique pour mieux comprendre cette partie inconsciente du consommateur.
Bernard Roulet, la grande ambition du neuromarketing, c'est d'échapper à la glorieuse incertitude du marketing traditionnel.
Alors, pour ce qui concerne le neuromarketing, je ne sais pas forcément, puisque je ne suis pas dans la partie commerciale et vente de conseils aux entreprises. Je suis plutôt du côté recherche universitaire en matière de neurosciences du consommateur. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un consommateur. Pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect éthique, je pense qu'il y a... c'est difficile d'établir une frontière et une limite, mais cette limite, à mon sens, c'est la conscience du consommateur lui-même. Est-ce que le consommateur est conscient ou non d'être, non pas manipulé, mais de recevoir des messages commerciaux ou marketing? Je parlais tout à l'heure de musique agréable, de température agréable dans un magasin, d'images, d'une annonce publicitaire, esthétique, etc. Le consommateur n'est pas dupe, il sait très bien qu'on lui soumet des stimuli destinés à le faire voir une marque ou une enseigne de façon favorable. La limite éthique, me semble-t-il, est franchie à partir du moment où cette conscience, plus exactement à partir du moment où le stimulus passe en dessous de la conscience. Et puisqu'il était question d'odeur, autant lorsqu'on est soumis à une température, une couleur ou une musique, on est conscient, bien sûr, des stimuli qui nous arrivent. Par contre, l'odeur, qui est un sens parmi les plus archaïques chez l'animal, et en particulier donc chez l'homme, L'odeur peut très bien avoir une action sur notre système nerveux sans que nous en ayons une conscience. Mmh. Et c'est là où la limite éthique est peut-être franchie. Je trouve qu'il est tout à fait légitime pour une entreprise ou une enseigne de faire du marketing, de faire de la publicité et d'essayer de séduire le plus possible un consommateur à partir du moment où ce consommateur n'est pas dupe de la chose et sait quoi prendre et quoi laisser par rapport à l'offre de l'annonceur. Par contre, ce qui est beaucoup plus délicat éthiquement, c'est lorsqu'effectivement, on n'a pas conscience. Lorsque notre système nerveux capte des informations, les traite sur un niveau implicite, sans que cela apparaisse à notre conscience. Ça, c'est beaucoup plus délicat.
Michel Desmurger.
Oui, il y a une limite. On sait tous qu'il y a une limite à l'attention. Et même si la musique, on peut l'apercevoir, il y a une étude qui a été faite, par exemple, dans une cave à vin, dans un magasin de vin. Donc, quand vous rentrez dans ce magasin, vous occupez des bouteilles. Et les gens, quand on leur demande, ils ne sont pas conscients du type de musique qui passe. Quand c'est de la musique classique, ils ne vont pas acheter plus de vin, mais ils vont acheter des bouteilles deux fois plus chères et la recette va augmenter. Donc, même si la musique est là, même si on le sait, souvent c'est des choses, quand on est concentré sur quelque chose et un comportement d'achat, c'est des choses dont on n'a pas conscience. Et si je peux me permettre, parmi les comportements, on parlait d'émotions, on parlait de ce genre de choses, les gens sont par exemple conscients que dans un certain nombre de films, il y a des scènes tabagiques. Et c'est un exemple qui me paraît particulièrement abject. Je peux me permettre une petite citation. C'est une citation, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus ou moins éthiques, mais c'est une citation que j'ai trouvée dans un livre de neuromarketing écrit par un neurochirurgien et un professeur émérite d'HEC, qui nous explique « Visez le petit, marquez-le au front le plus tôt possible, seul l'enfant apprend bien ». Les cigarettiers, les limonatiers, comprenez les alcooliers, savent que plus l'enfant goûtera tôt, plus il sera accro. Les neurosciences, donc ces gens-là qui ont une société, ont appris aux entreprises des âges idéaux auxquels un apprentissage donné se fait le plus facilement. Et ce qui est terrifiant, c'est que les entreprises tabagiques ont été les premières à comprendre les émotions et à associer le tabac avec des émotions positives. Stallone, ça a été le premier à passer à la caisse. Il a pris 500 000 dollars dans les années 80 pour associer, par exemple, de façon complètement implicite, parce que quand vous demandez aux gens à la sortie du film, ça a été fait pour Avatar, ça a été fait pour tout un tas de films, et les gens fument toujours autant dans les films, contrairement à ce qu'on croit, et dans les séries. Donc quand vous demandez aux gens s'il y a des scènes tabagiques, ils vous disent non. Et pourtant, il y a eu une association, et c'était le but, pour associer des images extrêmement positives du tabac, des images de force, d'autorité, de virilité, avec le tabac, qui commençait à avoir quelques problèmes avec la science. Et on s'aperçoit que ces choses-là ont été attendues à la féminité, à la sociabilité, etc. Et ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on devrait savoir par exemple, c'est que le facteur numéro un, on voudrait qu'un adolescent ne se mette pas à fumer, parce qu'il y a quelqu'un, 95% des gens qui ont commencé à fumer l'ont fait avant 20 ans. Le facteur numéro un qui pousse un adolescent à fumer, ce n'est pas de savoir si ses parents fument, si ses copains fument, c'est le nombre d'heures qui passent exposées à ce genre de contenu audiovisuel, parce que petit à petit, il y a une imprégnation. Et ces choses-là ne sont pas mises là par hasard. Elles sont mises là à dessein, et c'est l'une des caractéristiques, à mon sens, les plus abjectes du neuromarketing, qu'on voit théorisées dans ces bouquins quand même.
Anne-Marie Gauthier.
Oui, alors, pour revenir, là on est dans les cas extrêmes. Une fois de plus, je voudrais revenir sur l'importance de la transparence et aujourd'hui les marques ont cette ambition d'être transparentes et de créer un dialogue avec leurs consommateurs. Donc c'est la dernière chose qu'ils veulent faire, c'est de manipuler, essayer d'influencer de façon, j'ai envie de dire, forte, comme vous le dites, et insinueuse. C'est pas du tout la vocation des grandes marques aujourd'hui. Elles ont bien compris que le consommateur est, in fine, c'est lui qui décide, et elles préfèrent créer le dialogue, elles préfèrent avoir proposé, certes, ces produits de façon séduisante. C'est normal, parce que on va pas simplement mettre un produit les uns à côté des autres et les aligner sans mettre en avant ses propres qualités et ses différences par rapport aux autres marques. Ça n'a rien de nouveau. Et donc, là, la seule chose, c'est de s'assurer qu'on n'est pas en train de faire des choses insidieuses. Et de mettre une odeur dans un magasin, c'est simplement pour créer une meilleure atmosphère. Une odeur n'a jamais poussé quelqu'un à acheter beaucoup plus. Donc,
Les odeurs de fraises quand il n'y a pas de fraises. Si,
oui, ça, mais c'est montré, là, ça. Parce qu'on triche sur des fraises qui sont assez. Oui, mais la première fois que le consommateur va goûter ses fraises, il ne les rachètera plus.
Mais par exemple, Apple, Nike, c'est des gens qui vont simplement communiquer sur des valeurs, évidemment, qui vont associer un produit avec une valeur, la liberté, etc., la force, etc. Voilà.
Bonjour Marlène.
Bonjour.
Vous appelez de Lyon, dans le deuxième arrondissement. Bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Alors, vous avez travaillé dans le marketing, vous ?
Oui, j'ai travaillé dans le marketing, à la fois du côté des gens qui font de la recherche en institut d'études, et à la fois pendant de nombreuses années comme acheteuse d'études dans des grands groupes, type Nike, etc., dans une grande entreprise, plusieurs entreprises de cosmétiques. des très très grands groupes qui avaient beaucoup de moyens. Moi, je voudrais dire que je rejoins assez ce qui a été dit, mais en tout cas, le neuromarketing existe depuis pour moi 30 ans au moins, et utilisé sans qu'on en parle autant qu'aujourd'hui. Mmh. J'utilisais déjà ça intervient sur plein de domaines, sur la publicité, mais sur les produits aussi eux-mêmes.
Donnez-nous un exemple concret, Marlène, l'utilisation de techniques de neuromarketing.
Par exemple, dans les années 80, déjà, on utilisait, pour savoir que la publicité allait bien marcher, que ce soit en presse ou en télé, on mettait des casques sur la tête des gens, ça s'appelait l'eye tracking, et on mesurait le trajet de l'œil pour savoir les points de la publicité qui étaient défaillants ou pas assez performants, et en fonction de ce qu'on mesurait et ce que disait le conso, on optimisait les couleurs, etc., pour être sûr qu'il y ait ce qu'on appelle de l'impact publicitaire et qu'on vende. Ensuite, pour ce qui est, par exemple, du lancement des déodorants antitranspirants en France dans les années fin 90, on n'arrivait pas à convaincre les gens d'acheter ces antitranspirants parce que les gens n'arrivaient pas à nous dire le vocabulaire qui les capterait pour les convaincre. Moi, j'avais carrément utilisé l'hypnose, qui était une autre façon de faire, mais on mettait les gens sous hypnose pour qu'ils nous livrent à leur insu.
C'est légal, d'utiliser l'hypnose dans ce cadre-là?
Eh ben, écoutez, ils étaient d'accord, ils signaient une décharge et on recueillait le vocabulaire de l'intime qui nous servait après à faire des publicités qui, et on le revérifiait, avaient de l'impact parce que ça touchait exactement le vocabulaire de la sudation que ne pouvaient pas nous livrer confiamment les gens. Et puis pour ce qui est des lancements, par exemple, de rouge à lèvres, je suis carrément allée travailler avec le CNRS, on a mis des casques sur la tête des gens avec des électrodes pour qu'ils nous livrent leur sensation au niveau de rouge à lèvres avec du parfum et que l'on sache quel était le parfum qui avait les meilleurs goûts. Donc je dirais qu'à une époque, le marketing était de comprendre ce que consciemment le consommateur nous indiquait, j'aime pas, je suis convaincu, et on modifiait. Depuis bien longtemps, on fait un travail sur l'inconscient. Et je suis pas d'accord que la personne précédente, les grandes marques le savent. On recueille comment fonctionnent inconsciemment les gens au niveau de leur sensorialité.
Michel Desmurger, Michel Desmurger aimerait vous répondre.
Non, moi je trouvais ça très intéressant parce que il y a une différence entre la recherche telle que la femme sur roulet ou telle qu'on l'a fait dans les laboratoires et les entreprises. Moi, si je veux faire la moindre recherche sur un enfant ou sur un adulte, mais notamment sur un enfant, pour comprendre des choses très simples, comment il réagit face à une image, je suis obligé de me taper une tonne de paperasse à remplir de comités d'éthique, de CPP, etc. Alors que dans les entreprises.
De CPP?
Oui, c'est le droit de faire une recherche sans bénéfice médical direct. Je suis obligé de me taper toutes sortes de papiers et c'est lourd et c'est très lourd. Je suis obligé de justifier ma recherche et de l'expliquer. Alors que dans les entreprises, ils prennent les enfants, ils font leur sauce et ils peuvent faire des choses que moi, j'ai pas le droit de faire dans la recherche.
Bernard Roulet, au téléphone.
Alors. Il y a un maître mot qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui de libre arbitre. Les consommateurs et nous-mêmes, donc nous ne sommes pas des robots, nous avons certaines capacités cognitives de réflexion et de raisonnement, enfin on peut l'espérer pour l'essentiel d'entre nous, donc nous ne sommes pas tous des imbéciles ou des robots, et ce qui veut dire que... à condition, encore une fois, à condition que le stimulus ne soit pas en deçà de notre conscience, nous sommes assez grands pour faire la part des choses. On parlait tout à l'heure du tabac. Si je me trompe pas, dès les années 50, les chercheurs indiquaient l'aspect cancérigène du tabac et le risque pour la santé que ça manifestait. Alors évidemment, tous les grands cigarettiers ont tout fait pour faire entendre une musique différente. Mais objectivement, les pouvoirs publics connaissaient la dangerosité du tabac dès les années 50. Donc, il y a un effet de libre arbitre. Il y a des gens qui, encore aujourd'hui, vous disent « mon grand-père a fumé jusqu'à 90 ans et c'est pas bien ». Il y a des gens qui, consciemment, vont continuer à avoir des comportements nocifs pour leur propre santé ou leur propre bien-être.
Anne-Marie Gauthier, sur le témoignage de Marlène. Anne-Marie Gauthier, sur le témoignage de Marlène.
Oui, le fait que s'intéresser à mieux comprendre le consommateur, ça date depuis très longtemps, évidemment. Avec moi, j'ai jamais utilisé de l'hypnose et pourtant, j'ai fait plus de 30 ans dans le marketing et dans la publicité. Mais le eye tracking, en effet, a toujours été intéressant pour construire une affiche, pour construire une presse, pour mettre, pour optimiser une fois de plus cette annonce-là. C'est pas de la manipulation, c'est simplement une meilleure utilisation et une efficacité sur la publicité. Mais une fois de plus, le consommateur voilà la publicité. Après, il peut adhérer ou non à cette marque. Mais c'est pas parce que le logo est bien placé que tout d'un coup, il va courir et aller dans le magasin. Donc, je pense que là, on surestime ces outils. C'est de l'amélioration, mais une fois de plus, le consommateur choisit s'il a envie d'acheter cette marque ou pas.
Merci beaucoup, Marlène, de nous avoir appelé depuis Lyon. Et nous attendons toutes vos questions sur le neuromarketing au 01 45 24 7000.
True, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Doors, light my fire.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h39 et on se demande ce matin ce qu'est exactement le neuromarketing avec Michel Desmurgés, chercheur en sciences cognitives, Anne-Marie Gauthier, président d'un laboratoire conseil en neuromarketing, et avec au téléphone Bernard Roulet, maître de conférence, spécialiste en neurosciences du consommateur.
Donc on a ici des capteurs cardiaques qui permettent donc d'enregistrer votre activité cardiaque. Et puis, au bout du bracelet, on a donc deux électrodes qui permettent d'enregistrer la microsudation de la peau. Et donc, finalement, c'est un indicateur de votre intensité émotionnelle.
Marketing oblige, le bracelet a été conçu pour les marques. Direction donc un magasin de bricolage. L'enseigne a engagé l'agence pour mesurer l'émotion que suscitent ses produits sur ses clients. Je me glisse donc dans la peau d'un consommateur.
Entre le moment où vous avez commencé à manipuler le produit et quand vous l'avez retouché, on peut observer une augmentation. En tout cas, ce produit a suscité chez vous une intensité émotionnelle.
Percer le secret de nos émotions inconscientes pour mieux vendre, voilà le nerf de la guerre.
Un extrait de l'émission Allô Docteur sur France 5 en 2016 avec la neuroscientifique Cornéla Godard. Percer le secret de nos émotions inconscientes pour mieux vendre, voilà le nerf de la guerre, Michel Desmurgés.
Oui, il me semble. Oui, bah c'est mon interprétation en tout cas. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment marche le cerveau pour optimiser. Après, si je peux me permettre, je pense qu'on surestime un peu notre capacité de libre arbitre. Il y a de très belles études. Je vais en prendre une très rapidement. Si vous mettez quelqu'un dans une IRM, par exemple, et que vous lui demandez de faire une tâche ou une autre, à un moment, il va choisir la tâche. Et au moment où il va choisir la tâche, on a enregistré son activité. On peut prédire 7 à 8 secondes avant qu'il prenne sa décision, la décision qu'il va prendre, sur la base de tout un tas de processus inconscients. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend et dont on a l'impression qu'on les prend de façon libre, avec libre arbitre, elles sont souvent imposées en sous-main par des facteurs, des stimulus, des éléments complètement inconscients. Et donc le libre arbitre, on le surestime très très largement dans ce genre de choses.
En matière de neuromarketing, l'émotion prime sur la raison ? Anne-Marie Gauthier ?
Ce qui est important de savoir, c'est que dans toute décision, il faut savoir que ça passe par les émotions. C'est vrai que les émotions jouent ce rôle de garde-triage parce que le cerveau identifie les différentes solutions par rapport à une prise de décision. Et les émotions font cette garde-triage et nous permet de prendre des décisions plus rapidement. Donc c'est vrai que les émotions jouent sur les prises de décision. Et c'est d'où l'importance pour nous de mieux comprendre le rôle des émotions pour voir justement... comment un consommateur va être touché ou pas par tel produit. Je voudrais revenir sur l'exemple de cette enseigne de bricolage, et parce qu'ils avaient une vraie problématique qui était le déploiement des magasins de plus petites surfaces ou de grandes surfaces. Donc cette étude a été faite justement pour comprendre quelle est la taille de magasin qui était optimum pour le bien-être des consommateurs et pour le satisfaire et mieux le servir. Et il s'avérait, suite à cette analyse émotionnel, avec le plein gré des clients, parce qu'on leur demandait « Est-ce que vous voulez participer à cette expérience émotionnelle ?» Ils disaient oui, parce que ça les intéresse de mieux comprendre cette partie inconsciente de leurs émotions. Et il s'est avéré que justement, on a pu prouver que c'est là le magasin de plus petite surface, bien qu'il y ait moins de choix, qui favorisait ce bien-être des consommateurs et qui satisfaisait bien plus le consommateur dans l'achat de bricolage, de vis & co.
Bonjour Jessie.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous ?
J'appelle de l'Ardèche.
Bon, alors vous avez un magasin, c'est ça ?
Oui, exactement, j'ai un magasin de vêtements.
Et vous utilisez le neuromarketing dans votre magasin ?
J'aimerais beaucoup, c'est très intéressant, ça me fascine. Hein. Mais c'est vrai que ça m'intéresse de près, mais c'est vrai que moi j'ai un petit commerce de vêtements dans un village touristique en Ardèche. Et en fait, je vais réagir parce qu'en début d'émission, justement en venant ouvrir ma boutique ce matin dans la voiture, j'entendais que c'était un peu comme si il y avait d'un côté les méchants marketeurs qui voulaient absolument manipuler les gens pour vendre et les pauvres consommateurs qui sont un peu victimes. Et non, moi, je trouve, je voulais apporter un peu ma réaction en tant que commerçante, c'est que moi, j'ai des produits à vendre, c'est mon métier. Les gens, ils viennent dans ma boutique, ils ont envie de venir dans ma boutique, je les force pas. Et après, comme d'autres commerçants, après, on est tous consommateurs, à quelque part, on a envie de s'offrir quelque chose, ou justement, il faut qu'on aille au magasin de bricolage, donc il faut qu'on consomme. Donc, autant que ce soit agréable, genre, quand je souris à quelqu'un, c'est pas pour dire, ah tiens, je vais lui vendre une robe à 60 euros, c'est super. Non, je fais ça parce que j'adore ça aussi. C'est un plaisir.
Merci.
C'est vraiment un plaisir.
Merci.
Michel Desmurger.
Non, mais je veux dire, personne ne discute ça. Personne ne discute qu'un commerçant, il veut vendre. Personne ne discute le fait que la publicité, ça peut avoir des côtés intéressants à ce niveau-là. Moi, ce que je discute avec d'autres, c'est le ce qui me semble un franchissement éthique entre faire ça telle que Jessie, cette dame le fait, et faire ça à l'échelle, j'ai envie de dire, industrielle, en étudiant les émotions, en étudiant l'activité cérébrale, en étudiant les saccades oculaires, etc., pour optimiser des comportements d'achat.
Merci beaucoup, Jessie, de nous avoir appelé. Alors, vous le disiez, Michel Desmurger, le neuromarketing s'appuie sur des technologies réservées d'ordinaire à la médecine et à la recherche scientifique. Par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM fonctionnel. Il est possible, grâce à l'IRM fonctionnel, de détecter les zones d'activité du cerveau des consommateurs ?
Oui, alors il y a l'IRM fonctionnel, il y a l'électroencéphalographie, l'EEG, vous pouvez mettre un casque qui est un peu plus simple à utiliser. Il est possible de détecter la réponse d'un certain nombre de systèmes, le système d'appétence, le système de récompense, le système attentionnel, etc., à des images, à des publicités. En France, on n'a pas le droit d'utiliser l'IRM, mais ils vont le faire en Belgique à côté ou dans d'autres pays limitrophes, et ça se fait bien, et ça vous permet d'adapter la publicité.
Pourquoi on a le droit en Belgique et pas en France ?
Mais je ne sais pas, peut-être qu'on a une conscience éthique encore un peu plus importante. importante chez nous, je ne sais pas, mais je pense que ça va venir.
Anne-Marie Gauthier.
Alors, moi, je tiens à dire que chez Data Calab, qui est notre laboratoire conseil, on s'intéresse plutôt à des outils non invasifs, parce que d'aller étudier une publicité quand on est enfermé dans un IRM, on est loin de la vérité et de la vraie expérience d'un client. Donc, on s'oppose à ces méthodes invasives parce qu'elles ne reflètent pas la vraie vie. On préfère bien mieux comprendre les émotions suscitées par tel produit, par tel magasin, par tel spectacle, avec évidemment l'accord du consommateur. Donc on n'est pas en train de le manipuler, on est en train de mieux le comprendre pour mieux, une fois de plus, le satisfaire et affiner nos produits.
Michel Demirger, ce qui intéresse le neuromarketing quand il utilise par exemple l'IRM fonctionnel, c'est de détecter les zones précises où sont traités les mécanismes émotionnels ou réflexes qui peuvent participer à la décision d'achat, de consommation.
Ça, c'est ce qui intéresse les chercheurs, ce qui intéresse les gens qui font du neuromarketing et les publicitaires, c'est de voir l'impact de la publicité sur un certain nombre de zones, de voir si l'impact est maximum et d'adapter la publicité pour optimiser cet impact. Par exemple, il y avait sur un reportage de France 2, pour un soda, une espèce de cartoon de dessin animé avec une dame qui se promenait en buvant ce soda, il n'y avait pas d'effet, et puis on s'est aperçu que, on a vu à l'IRM, et puis on s'est aperçu que si vous mettiez une porte en verre et qu'elle se prenait la porte en verre dans la tronche en marchant, il y avait un pic d'activité cérébrale complètement inconscient qui favorisait l'encodage, et c'est ce genre de
choses. Ça s'appelle de l'impact, et donc évidemment dans les publicités, on cherche à marquer les esprits. Oui. C'est pas la manipulation, c'est simplement de créer un peu plus d'impact et un peu plus de mémoire. Mais est-ce que pour autant la personne va acheter le coca parce qu'une femme s'est pris un mur? Je ne pense pas, parce qu'une fois de plus, il faut que l'impact est lié à un message qu'on essaye de mettre en avant. Donc je pense qu'il faut arrêter de diaboliser le marketing. Le marketing est là pour simplement identifier les différences de ce produit, de les mettre en avant et après, derrière, de séduire un consommateur par rapport à ce produit-là.
Bernard Roulet au téléphone.
Concernant le marketing, je dirais qu'il a toujours existé. Tout à l'heure, en début d'émission, il était question de publicité romaine à proximité des arènes. Il faut savoir aussi que la première fausse marque et le premier produit de contrefaçon était un produit gaulois qui se faisait passer pour une marque romaine et qui vendait des amphores à Lyon sous une fausse marque. Donc, je dirais que le marketing, bon ou mauvais, existe depuis 2000 ans. Hein. Donc, autre élément... Le rapport entre psychologie et marketing existe depuis très longtemps. Burrhus Skinner, qui a été un des papes, un des fondateurs de la psychologie dans les années 20, est entré dans l'agence John Walter Thompson, une agence de publicité, autrement dit, la psychanalyse, dès les années 1920, aidait, en quelque sorte, collaborait avec, alors on peut être pour ou contre, mais elle collaborait déjà avec des publicitaires pour optimiser les messages auprès des consommateurs. Donc je dirais que ce phénomène, cette démarche n'est pas nouvelle, c'est seulement depuis une vingtaine d'années que des nouvelles technologies nous permettent d'aller un peu plus en profondeur et de contourner, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, contourner des blocages verbaux, sémantiques et accéder directement à des éléments émotionnels. Juste pour terminer, ce que je souhaitais dire pour la partie émotionnelle, c'est que depuis plus d'une vingtaine d'années, Joseph Ledoux, Antonio Damasio et d'autres ont montré que émotion et cognition sont absolument nécessaires toutes les deux. On a démontré dans certains cas psychopathologiques que quelqu'un qui n'éprouve plus aucune émotion n'est plus capable d'avoir des raisonnements cohérents et normaux. Donc, nous avons besoin des émotions, nous avons besoin de notre système limbique pour prendre de bonnes décisions rationnelles et cognitives.
Michel Demurger.
Enfin, moi, je parle pas du marketing, je parle du neuromarketing. C'est pas parce que ça s'est fait dans le passé que c'est plus acceptable de le faire maintenant, surtout que maintenant, les outils à notre disposition sont autrement plus performants. Mais vous preniez l'exemple de Coca, il est fascinant l'exemple de Coca, parce que des chercheurs ont comparé Coca et Pepsi, ils ont mis des gens dans une IRM. Et quand vous comparez Coca et Pepsi, vous faites ça en double aveugle. Quand vous demandez aux gens, il y en a 70% qui préfèrent Coca. Quand vous faites ça en double aveugle, les gens préfèrent Pepsi. Et la différence, c'est que quand vous faites ça sans voir la marque...
C'est l'impact de la marque.
Non, justement.
C'est toute la puissance de la marque, donc ça n'a rien d'extraordinaire.
Quand vous faites ça... Ça a quelque chose d'extraordinaire, parce que quand vous faites goûter les gens, sans voir la marque, ce qui va réagir, c'est le réseau du goût dans le cerveau. C'est-à-dire, c'est les réseaux qui vont vous dire c'est bon, c'est pas bon.
Étude de 2004, les consommateurs préféraient Pepsi.
Les consommateurs préféraient Pepsi, enfin préféraient Coca, mais en double aveugle, sans voir la marque, ils préféraient Pepsi. Et quand vous mettez la marque, et dans le gobelet, vous mettez ce que vous voulez, ça n'est plus du tout l'air du goût qui va réagir. C'est-à-dire, dans le cerveau, c'est plus du tout les régions qui vous disent c'est bon, c'est pas bon. C'est les aires de la mémoire et c'est les aires de l'émotion. Et s'il y a une autre, il y a une démonstration plus forte du fait que la publicité va directement écrire dans nos banques de mémoire et dans nos banques émotionnelles, il va être difficile d'en trouver une plus marquante que celle-là.
Anne-Marie Gauthier.
Oui, alors sur cet exemple de Pepsi contre Coca, ça montre la puissance de marque de Coca et qui a su toucher, sensibiliser les consommateurs depuis très longtemps. Donc c'est une puissance de marque qu'on est en train de mettre en avant. Donc on n'a pas besoin des neurosciences pour comprendre ça.
Alors, il faudra que vous reveniez pour évoquer d'autres questions sur le neuromarketing parce qu'il y a beaucoup de questions encore à aborder. Juste pour conclure, peut-on considérer le neuromarketing comme un marteau ? Un marteau, c'est utile, ça permet d'enfoncer un clou dans un mur, mais un marteau, c'est dangereux, ça sert aussi à fracasser le crâne. Michel Desmurgés.
Oh bah pour ce qui me concerne, je pense que vous avez compris que autant j'ai pas de problème avec le marketing classique, entre guillemets, autant l'utilisation de ces outils et des failles cérébrales, non, ça me plaît pas. Je trouve ça pas honnête, quoi, pas loyal.
C'est pas un marteau, c'est simplement une façon de mieux comprendre le consommateur. Une fois de plus, on n'impose pas une publicité, on n'impose pas un produit, on essaye simplement d'adapter ce produit pour mieux satisfaire les clients.
Un marteau, c'est utile aussi pour enfoncer un clou, c'est aussi... Voilà, la double analogie. Hein,
Ça
fracasse le crâne et c'est utile aussi. Bernard Roulet, pour conclure, très vite.
Très vite, je dirais, puisque c'était au début de l'émission, il n'y a pas de bouton achat. Le bouton achat n'existe pas dans le cerveau. Nous ne sommes pas des reptiles stupides qui agissons directement en fonction de stimuli. On a, même si c'est parfois limite, on a un libre arbitre, on a une capacité de raisonnement et d'interprétation. Et en tant que consommateur, on est encore libre de décider ou pas d'adhérer ou non à une communication ou une offre.
Merci à tous. Merci Michel Desmurgés, Anne-Marie Gauthier et Bernard Roulet. J'aimerais vous recommander le très bon numéro du bimestriel Cerveau et Psycho, daté de septembre octobre 2014, intitulé « Neuromarketing, le cerveau peut-il résister à la publicité ?» À suivre, il était une fois dans le web de Julia Foyce.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
Azaf Avidan.
Once upon a time.
Il faut garder le contrôle à tout prix.
Il était une fois dans le web.
Bonjour Julia Foyce.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors devant la force des réseaux sociaux, les génies du marketing ne pèsent parfois pas lourd. C'est l'histoire que vous nous racontez ce matin.
C'est l'histoire d'une canette de soda, pendue comme ça, au bout d'un bras. Le bras est celui d'une jeune femme, elle sourit et elle a du charme en face d'elle, des policiers. En randonnion, ils sont serrés, ils sont armés, mais désarmés. Devant cette envie de partager, cette main tendue, ils sont émus. Et cette canette, ce serait trop bête de la refuser car il fait chaud. Et puis c'est beau pour la photo. Ça fait penser à cette image qu'on a des marches contre le Vietnam. Ça nous rappelle ce doux visage et le regard d'une autre jeune femme, manifestante pour la paix. Au bout de sa main, elle tendait à des militaires une fleur. Ça s'appelait le flower power. Le pouvoir d'une photo qui peut marquer les esprits, qui dit mieux, et ce sur 5 décennies. Or, c'est bien ce que veut Pepsi répandre sur les États-Unis. Son nom, sa patte, c'est l'objectif. Sa fine équipe de créatifs a donc cette idée de génie d'aiguiser les consommateurs en citoyens, voire en acteurs d'un monde forcément meilleur. Et en un clip publicitaire, faire souffler sur toute l'Amérique un vent post-révolutionnaire, ou du moins qui en aurait l'air, faut quand même que ça reste esthétique. Pour l'incarner, ils vont chercher une fille dont la notoriété a explosé tous les compteurs de la télé jusqu'à Twitter. Kendall Jenner, l'avant-dernière de la famille Kardashian. Mais si, vous savez bien, ce clan qui squatte le petit écran. Pour Pepsi, c'est l'icône rêvée et c'est donc Kendall qui s'y colle. Au début de la pub, elle rigole. Séance de shooting, elle connaît. Sourire à l'objectif, elle sait. Mais c'est alors que dans la rue déboule une foule inattendue. Un cortège de manifestants, poings levés et en cœur chantant. Des slogans pour l'amour, la paix. C'est vague, oui, mais c'est fait exprès. On ne veut rien qui puisse fâcher. Quand on se bat pour un soda, on édulcore, on ne se mouille pas. Alors Kendall, sans grand danger, peut aller battre le pavé, sa perruque blonde arrachée et son rouge à lèvres effacé. C'est un geste d'émancipation à deux doigts de la révolution. Kendall plante la séance photo et elle court rejoindre illico le cortège des manifestants. Mais quel courage, ah non, vraiment. Attention, voilà la police, bientôt c'est le feu d'artifice. La manif immobilisée, on sent bien la tension grimper. Mais Kendall, qui n'a peur de rien, c'est une héroïne, oui, ou bien, s'approche alors d'un policier, lui tend sa canette de Pepsi. Le temps est comme suspendu et ce suspense, franchement, ça me tue. Mais on le voit là qui sourit, tout de suite on est plus détendu et la menace fiote disparue. Le calme, lui, est revenu et maintenant tout le monde communique. C'est fou le pouvoir d'un Pepsi. Le pouvoir surtout de provoquer sur Twitter un raz-de-marée car la pub à peine dévoilée faisait bien l'unanimité contre elle car on l'accusait d'avoir voulu s'approprier les codes d'un mouvement social et ce dans un but commercial. Scandale car la photo de fin en rappelle une autre encore. Tiens, c'était au mois de juillet dernier. C'est sûr, vous vous en souvenez, le mouvement Black Lives Matter est la moiteur de l'été. On a beaucoup manifesté et on a crié de colère contre les violences policières qui trop souvent s'abattent sur les Noirs. On dit c'est une bavure. Or, une photo a fait le tour de la planète en un seul jour. Prise en Louisiane à bâton rouge, on voit bien que personne ne bouge, surtout pas elle, cette jeune femme. Regard planté vers l'horizon et toute seule devant ce cordon de policiers, ça fout le frisson. De là à penser que Pepsi ait voulu la récupérer et qu'en toute connaissance de cause, la marque ait tenté de surfer sur l'émotion et sur la cause. Immédiatement, elle a nié, mais impossible de calmer la polémique déclenchée. Les réseaux se passent le mot et Pepsi est vite acculée, obligée même de s'excuser et de le lendemain abdiquer. La pub alors est retirée, la jeune Kendall, elle, mortifiée. Du côté de la concurrence, on se félicite, on saute de joie, car le résultat de cette histoire, le détail qu'on garde en mémoire, c'est ce hashtag, c'est ce mot-clé qui, contre Pepsi, a circulé. Et vous savez ce qu'il disait ? Je bois du coca, ça c'est fait.
Merci Julia Foyce, il était une fois dans le web, c'est tous les mercredis dans Grand Bien Vous Fasse. Demain on se demande à quoi reconnaît-on le grand amour. Dites-nous tout par courriel, grandbienvousfasse@radiofrance.com et dès 9h au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Philippe Duclos et Maxime Ingrand.